Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons le faire à travers la prédication et la parole de Dieu. Je suis heureux de voir Marthe-Hélène, madame maintenant, avec son mari. On a beaucoup prié pour vous, que Dieu vous bénisse dans votre couple. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Tite. Juste le temps de le trouver. Alors, Tite, chapitre 2, on va lire le verset 11. À 14. Et je vous invite ce matin à décortiquer ces trois versets qui sont d'une importance capitale pour chacun de nous qui sommes des chrétiens qui n'avons donné notre cœur à Jésus-Christ. Alors, Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, une fois qu'on a lu cela, vous avez bien compris de quoi je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de la grâce. Cette grâce que chacun de nous elle a pu obtenir par la grâce de Dieu. Et ce matin, on va voir que cette grâce ne parle pas seulement de salut, mais cette grâce, en plus, il nous enseigne. Cette grâce, elle nous éduque. Cette grâce, elle est pédagogique. Cette grâce, c'est une révélation. Cette grâce, c'est la manifestation. Vous voyez, il y a tant de choses que ces trois versets, ils nous disent. Et toutes ces choses-là, ils ne nous font que du bien. Parce que nous voyons à travers cette grâce, l'amour de Dieu qu'il a envers chacun de nous. C'est pour cela que nous pouvons dire merci au Seigneur, la grâce de Dieu. Vous connaissez tous, je suppose, le cantique « Grâce infinie ». En anglais, excusez ma prononciation, « Amazing Grace ». C'est comme ça, mais vous savez de laquelle je vous parle. C'est l'un des cantiques qui est les plus utilisés, les plus chantés, pas seulement par les croyants, mais aussi par les incroyants, parce que ces cantiques, il apporte beaucoup de joie et de paix à tous ceux qui la chantent. Comme disait notre pasteur Bob, il disait que lorsqu'on chante un cantique, il faut pas seulement chanter, mais il faut réfléchir à ce qu'on dit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit, ce cantique. Si tu peux les afficher, Samy, s'il te plaît, les paroles, je vais vous les lire, mais chacun de nous, il peut les lire. Tu l'as trouvé? Oui. Sinon, je l'ai ici, j'ai tout écrit. Mais pour que vous puissiez... Et ce cantique, il parle de la grâce infinie de Dieu envers chacun de nous. Voilà ce qu'il dit, ce cantique. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, alors que j'ai cru en lui. Depuis ces jours, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'a envahi. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Voilà un cantique merveilleux. Et ce cantique, il a été écrit par John Newton. Peu de gens savent que cet auteur qui a écrit ces paroles, il a écrit pas seulement 2 strophes dans ces cantiques, mais il y a 8 strophes. 8, il y en a. Nous, on n'en chante que 2. Sinon, il fallait des heures et des heures. Hein. Mais il a écrit 8 strophes supplémentaires, hein, et qui sont habituellement chantées partout dans le monde. Partout dans le monde. Un peu l'histoire de cet auteur. Cet auteur, il a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Je vous lis ce que j'ai pioché dans l'Internet. Il a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Il devint marin et travailla sur des navires d'esclaves. Dans une ironie cruelle, il se retrouva lui-même esclave. Et il fut vendu à une dame de couleur qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, comme on dit. Hein. Pourquoi? Mais justement pour se venger de tout ce que, disons, les Blancs, il avait fait subir au peuple de couleur. Alors il était maltraité, il a été vraiment traité comme un animal, mais il fut sauvé de cette vie dégradante, et il est devenu un ministre dans les témoignages et l'auteur de beaucoup de cantiques, pas seulement celui-là, mais beaucoup de cantiques qu'il a fait, qu'il a donné la joie à beaucoup de chrétiens et ainsi qu'à nous. Hein. Et voilà ce qu'il a écrit avant sa mort, qu'il est arrivé en 1807. Voilà ce qu'il dit. « Malgré que je ne sois pas ce que je devais être, ni ce que je souhaite être, ni même ce que j'espère être, je peux honnêtement dire que je ne suis plus ce que j'étais, esclave du péché et de Satan, et je peux de tout cœur me joindre à Paul et reconnaître par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » La grâce de Dieu. Il a accompli tout ça et il a fait tout cela pour nous. Mais revenons à Tite, le verset 11. Encore, c'est un verset fantastique parce que il nous décrit le salut. Voilà ce qu'il dit, ce verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous rendez-vous compte de la portée de cette affirmation? L'accent est mis sur la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, il nous est dit, a été manifestée. A été manifestée. Et chacun de nous, il a pu en profiter de cette grâce. Car sans l'intervention de cette grâce, nous serions toujours perdus et voués à la colère de Dieu et à la destruction. Le mot « grâce », il revient 170 fois dans la parole de Dieu. Et cela pour nous montrer combien elle est importante. Dans le grec, cette grâce, elle est appelée avec le mot « charis », que ça veut dire un don, quelque chose que nous ne méritons pas. D'ailleurs, quelle est la définition de la grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est quelque chose. Dieu, il nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas la grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don immérité. À ne pas confondre avec la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Ce sont deux mots qui sont très importants, même dans notre vie chrétienne, et de l'important. La grâce, c'est le salut. La miséricorde, Dieu il nous fait miséricorde lorsque nous tombons dans les péchés. C'est là que Dieu il nous fait miséricorde. Il ne nous donne pas le salut, encore une fois, parce que le salut, il est là. Nous l'avons. Mais lorsque nous tombons dans les péchés, nous demandons pardon. Et Dieu, au lieu de nous donner ce que nous méritons, il ne le fait pas. Et il nous pardonne nos péchés. Voilà cet amour de Dieu. Vous savez bien que on est sauvé par grâce. Et dans Éphésiens 2, il nous est dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Hein? Ce texte de Paul, il est bien connu, surtout pour nous protestants. On n'a rien à protester, hein? Mais vous savez bien que cette grâce de Dieu a été redécouverte hein, par Luther, et qui a donné lieu à la réforme. Car à cette époque-là, les gens ils étaient complètement tournés vers l'Église catholique, et Luther, il a étudié l'Épître romain, et il a découvert qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la grâce de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ces versets aussi, des fois, ils ne le lisent pas comme il faut. Parce que ce verset, il nous parle, il dit, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas la foi qui nous sauve, mais c'est la grâce. C'est la grâce qui sauve. Et il nous est dit que, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est pas par la foi? Il faut croire. Et il continue, il dit, et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce que c'est qui ne vient pas de lui? La foi ou la grâce? Hein? C'est la grâce. Cela ne vient pas de vous, il vient de Dieu. Voilà ce que Dieu il nous dit. La grâce, nous n'avons rien à faire là-dedans. C'est Dieu qui nous donne cela. Nous ne méritons pas cette grâce, mais Dieu, il nous la donne. Pourquoi? Parce que Dieu souhaite que tous soient sauvés. Tous. Personne d'exclu. Alors, pourquoi il est important de savoir que nous sommes sauvés par grâce? Eh bien, tout simplement pour nous faire prendre conscience que nous ne rentrons pour rien dedans. Comme il est prêché dans presque toutes les religions aujourd'hui, on prêche que pour être sauvé, il faut accomplir des œuvres. Ce matin, les frères, il en a parlé. Travaillez à votre salut. Hein? Beaucoup, ils disent, pour être sauvé, il faut que je travaille. Non, c'est travailler parce que nous sommes sauvés. Si quelqu'un dit, je suis sauvé, il doit travailler. S'il ne travaille pas, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et ce matin aussi, encore, a parlé du sceau du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le sceau du Saint-Esprit? Le frère, il n'a pas pu tout expliquer. Mais qu'est-ce que c'est le sceau du Saint-Esprit? Le sceau du Saint-Esprit, c'est l'assurance du salut. Comme il faisait les rois. Il mettait le sceau, c'est moi, c'est le roi qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça. C'est l'assurance du salut. C'est ça les sceaux du Saint-Esprit. Que nous sommes sauvés. Si nous avons accepté Jésus-Christ, rien et personne, il peut nous faire perdre le salut en Jésus-Christ. Sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. Voilà pourquoi c'est très important de savoir que nous n'y sommes pour rien. Mais quelqu'un il fait dire, mais comment peux-tu dire que nous n'y sommes pour rien? Puisque moi, à un certain moment, je dis oui à Dieu. Donc, je rentre aussi dans le salut. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on dit oui à Dieu, c'est en réponse à la grâce que Dieu nous dit, il nous fait. C'est pas parce que nous le voulons, mais nous disons à Dieu, oui, j'accepte cette grâce, ce don immérité que tu m'as fait. Je l'accepte. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui nous le donne. Pourquoi? Parce que nous ne méritons rien. Nous n'avons droit à rien. Et c'est là qu'il est manifesté l'amour de Dieu. Au lieu de nous punir, de nous condamner, de nous juger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté son amour. Adam et Ève, le jour, on a parlé encore ce matin, le jour que vous en mangerez, vous mourrez, certainement. Et ils ont désobéi à Dieu. Normalement, il devait y avoir la mort, n'est-ce pas? Non, mais Dieu, il a manifesté sa grâce. Genèse 3, 15. Oui, de ta postérité, il viendra quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et ça, c'est la grâce de Dieu en nous disant, oui, tu as péché, mais je te fais grâce parce que je t'aime. Dans Jérémie, il nous a dit, je t'aime d'un amour éternel. Même lorsque nous sommes des pécheurs, Dieu, il nous aime, car il désire nous sauver. C'est ça, cette grâce que Dieu nous fait. C'est seulement en réponse à ce que Dieu a préparé. On accepte cette grâce en disant, oui Seigneur. Vous savez, c'est lorsqu'on entend la prédication, lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur il nous dit. Il m'a dit les premières fois qu'un pasteur il est venu me parler. Il m'a dit, est-ce que tu observes tout ce que Dieu dit? Ben, j'ai fait de mon possible. Est-ce que tu crois que Dieu il te doit quelque chose? Ben, bien sûr, par rapport à d'autres qui n'observent pas. Il m'a dit, Dieu ne te doit rien. Romains, car le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don, c'est pas quelque chose que nous méritons. Et Dieu nous fait cette promesse que si nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous aurons ce salut. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et nous savons que lorsque Dieu il promet quelque chose, il est fidèle et juste pour maintenir ce qu'il dit. Il ne change pas. Vous savez, dans la religion musulmane, ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils disent que Dieu il peut dire non, mais nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur il veut nous faire comprendre. Hein? Obtenir la grâce, c'est rentrer dans le bénéfice de cette vie éternelle que Dieu a promis depuis les commencements de toutes choses. Avant de venir au monde, j'aime tellement ce verset dans Éphésiens qui nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans le ciel, avant le commencement, avant la création. Quelqu'un qui raisonne humainement, il peut se dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Avant le commencement de toutes choses, du monde et tout ça, Dieu, déjà, il m'avait élu. Tu me fais rigoler avec ça. Mais nous sommes bibliques. Nous croyons ce que la Bible dit. Et si Dieu le dit, la chose, c'est comme ça. Car si nous lisons la Bible et nous ne croyons pas à ce que Dieu dit, à quoi bon? Pourquoi vous êtes là? C'est parce que vous croyez que la parole est celle de Dieu. Sinon, ici, on perd le temps. Hein. C'est mieux rester comme le monde, aller courir. Hein. Nous sommes là parce que nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est à cela que nous comprenons cette grâce de Dieu. Dans Romains 5, 8, il nous le dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Comment il a prouvé son amour? En nous disant aux gens, Dieu t'aime. On dit, mais comment est-ce que Dieu m'aime? Regarde la vie qu'on est en train de vivre. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Le verset, il nous le dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, il nous a fait grâce à Jésus-Christ. C'est ça la beauté là, et la vérité, la grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est exactement comme ces beaux cantiques qu'on chante, la grâce de Dieu, et dans laquelle nous nous réfugions, et dans laquelle nous nous sentons bien, parce que c'est Dieu qui fait tout. Et si nous sommes sauvés, je le répète, si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pour ceux qui viennent à l'étude le mercredi, ou qui venaient à l'étude le mercredi, pour connaître la grâce de Dieu, tous les chrétiens, ils vous diront, il faut lire Romains, il faut lire Colossiens. Non, il faut lire l'épître de Pierre. C'est là que Pierre nous montre tout ce que la grâce de Dieu il peut faire dans notre vie une fois que nous avons accepté Jésus-Christ. Parce que dans la grâce, il y a deux significations. Premièrement, il y a la signification du salut. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais aussi, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous le faisons et nous le disons par grâce. Lorsque vous faites quelque chose, si vous êtes ici ce matin, pourquoi vous êtes là? Par la grâce de Dieu. Si vous vous êtes réveillé ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas question de salut, mais c'est la puissance que le Seigneur il nous donne à travers cette grâce. Voilà pourquoi la grâce de Dieu elle ne vient que par et à travers des dieux. Et ce verset 11, il nous dit autre chose. Il nous dit que elle nous a été révélée. Cette grâce de Dieu, il nous a été révélée. Ou sinon, dans d'autres traductions, c'est manifestée. A révélé, cette grâce de Dieu nous est révélée, ou manifestée. Comment et par quoi? Par et à travers Jésus-Christ. Et j'ai bien aimé dans le grec ce mot-là, manifesté ou révélé, c'est le mot épiphanéo. D'où il vient le mot épiphanie, que ça veut dire paraître. Paraître. Et quand c'est que cette grâce de Dieu elle a apparu? Quand c'est qu'il a été manifesté? Mais lorsque Jésus-Christ il est venu ici-bas sur cette terre. Car il est venu ici-bas, sur cette terre, justement pour manifester cet amour que Dieu il a envers l'humanité. Car c'est à travers lui que nous pouvons rentrer dans cette grâce. C'est à travers lui que nous pouvons usufruire de cette grâce de Dieu. Vous savez, le salut, c'est ça. Dieu il nous dit, tu es sauvé si tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Si on n'accepte pas Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'on fait? On refuse ce que Dieu, il désire pour chacun de nous. Et ça, c'est encore une fois pour nous faire comprendre que Dieu, il ne veut qu'une seule chose, c'est nous sauver. Mais là, il dépend de la réponse que nous allons donner à Dieu. Et cette grâce, il a été manifestée quand Jésus-Christ, il est venu ici-bas. On l'a vu encore dans l'étude, il est venu faire quoi, Jésus? Nous servir. Nous sauver. Nous ouvrir la porte du paradis. Parce que vous savez bien que la porte du paradis était fermée. D'ailleurs, si vous lisez un peu la Bible, lorsque quelqu'un il meurt, il ne va pas au paradis. Il n'allait pas au paradis dans l'Ancien Testament. Mais il allait dans le séjour des morts. C'était l'endroit où tous ils allaient. ou qu'ils faisaient la volonté de Dieu ou pas. Sauf que dans les séjours des morts, ils étaient partagés. Il y avait l'endroit où est-ce qu'ils souffraient et le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous en parle, hein? Mais Jésus, il est venu justement pour nous ouvrir, pour nous réconcilier avec Dieu. Et lorsqu'il l'a fait, lorsqu'il est mort sous la croix, il est ressuscité. Et c'est là qu'il nous est dit dans l'épître de Pierre qu'il est descendu aux enfers, pas à l'enfer pour prêcher l'évangile et pour sauver, mais pour dire à tous ces gens qui n'ont pas accepté et leur dire, voilà, la prophétie, elle a été accomplie. Et il a pris tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, tous ceux qui ont accompli la volonté de Dieu, qui ont cru en Dieu, et il les a fait rentrer au paradis. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens, si nous mourons, où est-ce que nous allons? Pas dans le séjour des morts, mais au paradis. Tandis que les autres qui n'ont pas Jésus-Christ, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont à l'enfer? Personne ne répond. Vous dites ça aux gens, où est-ce qu'ils vont ces gens? Ils vont en enfer. Non, je suis désolé, ils ne vont pas à l'enfer. Parce que ça, c'est pas ce qu'il dit la parole de Dieu. Ils vont toujours dans les séjours de mort. Mais un jour, il nous est dit dans Apocalypse, les séjours de mort, il va cracher, il va vomir ces morts. Et là, ils seront jugés. Pourquoi je dis que ils ne vont pas dans l'enfer? Parce que l'enfer, Dieu, il ne l'a pas créé pour nous, pour l'humanité, mais il l'a créé pour le diable. Il faut lire la parole de Dieu. Tout est expliqué. Tout est expliqué. C'est le diable qui va là, ainsi que les faux prophètes et l'antichrist. Mais ceux qui ont voulu suivre Satan, le diable, ils vont être jetés dans l'enfer. Et il ne faut pas croire ce que les gens ils disaient dans le Moyen Âge, pour faire peur aux gens. Ah, l'enfer, l'enfer. Il y a les diables avec leur fourche qui vous prend, qui vous retourne et tout ça. Non. À l'enfer, le diable va souffrir comme tous les autres. Comme tous les autres. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. Voilà pourquoi c'est très important de lire la parole de Dieu. Et Jésus, il est venu pour cela. Et il est venu pour nous sauver et pour nous servir. Et voici, il y a quelque chose de beau en Jésus-Christ. Il nous a servi pendant qu'il était ici-bas. Et il continue à nous servir maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu en tant que notre souverain sacrificateur. Car vous savez bien que dans le ciel, hein, il y a Satan qui nous accuse. Hein. Il nous accuse. Voyez le Job, c'est l'exemple flagrant, n'est-ce pas? Elle dit, Aldo, Aldo, mais regarde-le. C'est ça un chrétien? Et Jésus, il est là en tant que mon avocat, mon souverain sacrificateur. Il m'a dit non. Aldo, il m'a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Il a encore sa nature pécheresse en lui, mais tout de suite, il demande pardon à Dieu. Et je suis garant de lui. Et vous savez, si Jésus est notre garant, quelle meilleure garantie nous pouvons avoir? Voilà pourquoi nous avons le salut, hein, Jésus-Christ. Donc, il nous a été révélé. Et autre chose qu'il nous est dit dans ce verset 11, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est juste ces versets, c'est les condensés de tout l'évangile. Il nous a dit, pas seulement que cette grâce a été manifestée, et que c'est, il dit que c'est une source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et ça, il nous parle, ce verset, il nous parle de l'universalité du salut. Le salut que Dieu il a accompli, il c'est pour tous. Et pas seulement pour certaines personnes, de certains peuples, certaines couleurs, des riches ou des pauvres, non, pour tous. Encore une fois, Dieu, il veut que tous arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Des nombreux passages d'Apocalypse, si vous lisez Apocalypse, on voit que devant le trône de Dieu, ils sont tous réunis. Hein? Par exemple, il nous est dit dans Apocalypse 5-9, « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Pourquoi il a fait ça? Car Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Moi, je suis italien. Il y a pas mal de nationalités ici, n'est-ce pas? Si je n'aurais pas Jésus-Christ, et vous, pareil, on n'aurait pas Jésus-Christ, jamais nous ne serions côtoyés. Mais par et à travers Jésus-Christ, nous rentrons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, vous êtes ma famille. On a la famille ici-bas, mais ce qui nous compte de plus, c'est la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu et nous avons pour Père Dieu. Jamais le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, il appelait Dieu Père. Mais nous, nous le faisons. Jésus, il a dit, mon Père est votre Père. Et votre Père. Voilà pourquoi nous nous tournons vers Dieu en disant, mon Père. Lorsque vous priez, dites, notre Père. Il disait ça aux disciples. Notre Père. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et ça, c'est l'universalité de toutes ces choses-là. Si la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, comme il est dit des versets, comment est-ce que nous osons ne pas annoncer l'évangile à tous ceux qui nous entourent? C'est pour tous les hommes. Et nous devons le faire. Vous savez, je dois le confesser que je l'ai fait. Quand je faisais la distribution, je voyais une belle maison et je ne mettais pas les prospectus. Je me disais, regarde la maison qu'il a, il n'a pas besoin de Dieu. C'est ça. Tous ont besoin de Dieu, car tous, ils sont pécheurs. Tous, ils sont perdus. Vous voyez cette Bible-là, je l'ai retrouvée, c'est la Bible que je me suis offerte lorsque j'ai prêché mon premier message à Argenteuil, 1986. Et mon premier message, c'était « Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc ça fait 36 ans, 37 ans que je prêche. Et depuis, le Seigneur m'a conduit, je suis passé par des moments difficiles. J'ai eu de grandes difficultés, mais cette grâce de Dieu, elle a toujours été là. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Et encore une fois, annoncer l'évangile. Car tous ont besoin. Et pas dire oh, telle personne n'en aura pas besoin. Non, tous ont besoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici, c'est l'universalité du salut. Tous, les peuples juifs disaient que c'était pour eux. Mais déjà, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas dit les péchés des juifs, mais du monde. Mais les Juifs, ils étaient tellement ancrés dans leur propre esprit et disaient, nous sommes du peuple de Dieu. Il est notre Dieu. Non, Dieu, c'est le Dieu de tous. Regardez les peuples juifs sous les murs de Jérusalem. Ils sont là. Merci Seigneur de m'avoir fait naître juif et d'être mon Dieu. Non! Il faut laisser tomber toutes ces pensées-là. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Et il désire que tous, ils arrivent à la connaissance. Et ce verset, au verset 12, il continue et il nous dit, il nous montre les effets de cette grâce dans notre propre vie. Cette source qui nous a été révélée pour tous les hommes, il fait quoi cette grâce? Il dit, elle nous enseigne. Oui, la grâce, pas seulement il nous sauve, mais il nous enseigne. Réalisons ce verset 12. Elle, cette grâce, il nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce, elle nous enseigne. La grâce, elle est didactique. Il nous conduit. La grâce, elle est pédagogique. Il nous montre, il nous amène là où nous devons concentrer notre propre vie. Voilà pourquoi c'est une grâce, disait, ce n'est pas une grâce statique. C'est-à-dire, ah, merci Seigneur, je suis sauvé, voilà. Non, c'est une grâce qui doit être active. Si on sait qu'on est sauvé et on ne fait rien pour ceux qui sont autour de nous, il y a quelque chose qui cloche. Vous en souvenez, celui qui avait été sauvé par le Seigneur, il avait été sauvé, il a fait un miracle sur lui et il a dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Il a dit, non, va chez toi et annonce ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que ce que j'ai fait pour toi, je suis prêt à le faire pour tous. Donc c'est une grâce qui nous met en mouvement. Si on sait qu'on est sauvé, automatiquement on doit faire des choses. Voilà pourquoi il nous a dit, travaillez à votre salut. Pas pour avoir le salut, mais parce qu'on est sauvé. C'est ça ce que nous dit cette grâce. Et il ne faut pas être égoïste à ces choses-là. Il faut aller vers les autres. Car Jésus, il l'a fait. Il disait quoi, les pharisiens? Il disait, regardez, il va vers les pécheurs, il va avec les pécheurs. Mais oui, qui c'est qui a besoin d'être sauvé? Mais c'est les pécheurs. Mais ces gens-là, ils ne voulaient pas reconnaître ce qu'ils étaient. Ils étaient imbibés de leur propre personne. Mais Jésus, il allait. Je suis venu pour les malades du péché. Bien sûr, si quelqu'un ne se tourne pas vers le Seigneur et lui dit, oui Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais mes péchés, je te demande pardon, sauve-moi, interviens dans ma vie. Mais c'est comme ça que le Seigneur, il vient et il nous restaure et il nous fait grâce. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est malade de ses péchés, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il compte se reconnaître. Voilà pourquoi il nous a dit que cette grâce, il nous enseigne. Il nous enseigne, comme je vous dis, à deux choses. Premièrement, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises. C'est quoi le mode de vie impie? C'est avoir le mépris de Dieu. Faire les choses qui me semblent bonnes. Vous vous en souvenez, au livre des juges, il y a cette phrase qui est répétée partout. Elle disait, les gens, ils faisaient ce qui lui semblait bon. Ils n'avaient plus aucune gêne de laisser derrière les enseignements de Dieu. Ils faisaient ce qui leur servait. Mais ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous devons faire les choses que Dieu désire qu'on fasse. Pas ce que moi, je vais. C'est le mode impie. C'est une façon de vivre et qu'il met de côté entièrement Dieu. Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et il y a des gens qui disent à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de Dieu. Regardez le monde aujourd'hui, pendant toute cette pandémie. tout ce qu'il est en train d'arriver. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, oui, Dieu intervient dans ce monde. Non, pourquoi? Parce que ils vivent d'une façon impie. Ils disent, j'ai pas besoin de Dieu. Je peux faire les choses moi-même. Mais il y a que Dieu qui peut intervenir et apporter la paix. Donc, chacun de nous souhaite, donc le monde souhaite. Mais avant d'intervenir, il faut se reconnaître, se connaître, tel que je suis, sans rien à moi. C'est ça. Et ensuite, il nous est dit, il nous enseigne aussi à vivre dans le temps présent. C'est-à-dire, nous qui sommes des chrétiens, des fois on dit, ah, dans le monde, il y a les péchés et tout ça, je vais me retirer du monde. Non, il faut vivre dans le monde. Parce que si on se retire du monde, comment voulez-vous annoncer la parole de Dieu? Comment voulez-vous annoncer cette grâce de Dieu qu'il est prêt à la distribuer tout autour de nous? Voilà pourquoi il nous enseigne. Vous savez, mes frères et sœurs, si il y a aussi Jésus, hein, vous en souvenez ce qu'il a dit dans 17:15, il a dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder dans le monde. Au Moyen Âge, il y avait Saint François d'Assise, hein, qu'il avait institué l'ordre, hein, de se retirer dans un couvent et rester comme ça, sans aucun contact. Il dit comme ça, je ne suis pas dans le monde, donc je ne pêche pas. Je ne fais que prier, que chanter, que travailler en paix avec mes frères et sœurs. Mais ils étaient retirés du monde. C'est pas ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, tu es sauvé, alors va. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et surtout, faites des disciples. Pourquoi c'est important de faire des disciples? Parce qu'un disciple, s'il a été bien enseigné, il continuera à faire ce que son maître fait. Et le Seigneur, il nous l'a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Voilà pourquoi c'est très attention. Nous qui reconnaissons que nous sommes sauvés par grâce, nous ne devons pas rester là à nous tourner les pouces. Nous devons bouger. Nous devons travailler. Nous devons annoncer. Combien il y a dans notre propre famille de gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Dans notre famille, dans nos connaissances, qu'est-ce que nous faisons pour? Des fois, nous n'osons même pas parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais vous savez, le Seigneur est clair, hein? Il a dit, c'est lui qui aura honte de moi. J'aurai honte de lui. Il faut parler du Seigneur. Et Paul, il nous dit, qu'il y ait toute occasion pour rendre témoignage. Et nous devons le faire, parce que c'est pour cela que nous avons été sauvés. Hein? C'est quelque chose de... Et ensuite, au verset 13... Il y a encore deux versets, hein, mais on a le temps, encore 5 minutes. Verset 13, il continue et il dit, « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » En attendant la manifestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire les jours où il va venir pour nous prendre. Hein, vous savez, on dit toujours que, en tant que chrétien, hein, on a les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Pourquoi? Parce que ce que nous savons, c'est qu'un jour, Jésus, il va venir nous prendre. Les pieds, ils sont sur terre, oui, mais nous, ils sont sur terre pour travailler. Et nous devons tout faire avec cette pensée qu'un jour le Seigneur, il va revenir pour nous ramener avec lui dans le ciel. Et nous savons, il nous le dit dans Éphésiens, que nous sommes déjà assis à la droite de Dieu. Nous sommes là ce matin, mais en Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Mais il faut croire ces choses-là. Il faut les croire. C'est tous des promesses que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'un jour, nous allons rentrer à la maison. Car ce n'est pas ici, sur cette terre, notre maison. Mais notre maison, c'est là-haut. Il nous a dit que Dieu il nous a préparé une cité merveilleuse. Lisez Apocalypse, vous verrez cette cité, comment elle est. Pas les petites maisons minables qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, mais une cité merveilleuse. Et nous savons que lorsque Dieu il prépare quelque chose, c'est merveilleux. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons... C'est une certitude. Une certitude. Hein? Et le verset 14, il conclut en disant qu'il nous explique pourquoi est-ce que cette grâce, il a agi dans la vie de tous ceux qui font confiance. Et il dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Voilà l'explication du salut qui est offert en Jésus-Christ. Il est clair, il est net. Hein? Jésus s'est donné lui-même pour nous, en s'offrant sous la croix, pour nous racheter, nous purifier, nous pardonner de tout péché. Et ensuite, on peut continuer à lire, hein. Paul dit que le Seigneur nous a sauvés, c'est pour se faire un peuple. C'est faire un peuple qui lui appartienne. Qui lui appartienne. Qui lui appartienne. En d'autres termes, nous devons être des membres fidèles à cette famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu et nous devons être fidèles à ce Dieu qui nous a sauvés. Donc, soyons conscients de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui nous le dit. Et encore une fois, si Dieu il me le dit, je le crois. Je le crois. Et ce n'est pas tout. Il dit, si nous appartenons à Dieu, c'est pour être zélés. Pas pour dire, oui, voilà, je suis enfant de Dieu. Non, c'est pour être zélé. Pour faire quoi? Pour faire des belles et des bonnes œuvres. Et toutes ces belles et bonnes œuvres, on le sait que c'est Dieu qui dit que c'est une œuvre est belle ou bonne. Si elle est accomplie pour sa seule et unique gloire. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit, faites tout et dites tout pour la gloire de Dieu. Que nous soyons conscients de cette grâce dont Dieu nous a donnée. Que nous puissions la déverser tout autour de nous avec cette puissance que le Seigneur nous donne afin que tous ils puissent profiter et qu'ils puissent rentrer dans cette famille de Dieu et qu'un jour nous puissions attendre la révélation de Jésus en gloire pour nous prendre avec lui et accomplir les desseins de Dieu avec lui. Que Dieu nous bénisse.